Peut-être que je n'aurais pas préparé mes quelques remarques que je vais vous présenter si j'avais lu l'exposé de Nicolas, si j'avais eu la possibilité de l'étudier en détail. Vous comprendrez que ce que je vais faire en fait, c'est d'essayer de répondre à ce que je crois était une des motivations fondamentales de ce séminaire, de cette séance, à savoir de comment aborder l'organisation immanente d'une œuvre et les contextes dans lesquels l'œuvre peut être plongée, de savoir comment les aborder, comment les mettre en relation, ce qui implique quelquefois méthodologiquement par où commencer. Par où commencer? Je dirais par où commencer, je devrais faire une précision, par où commencer au niveau de la présentation et de l'écriture finale de son texte. Parce qu'il est bien évident que lorsqu'on fait de la recherche, ça fout le camp dans toutes les directions. On peut très bien, en étudiant une œuvre, en l'écoutant, etc., avoir des observations que tout se mélange. On peut très bien avoir des observations sur les relations entre des motifs et puis des intuitions sur les connotations sémantiques, ou bien de se dire, ah ben ça c'est de la musique de salon, ce qui relèverait de l'herméneutique. Donc, ce dont je parle ici, étant entendu qu'au fond, le cheminement de la recherche, lui, il est un petit peu, ça vagabonde, c'est au niveau ensuite de la présentation. Et j'ai été interpellé par cette chose qui faisait que j'ai souhaité, j'ai accepté très très volontiers ton invitation, parce que lorsque j'ai écrit, donc je vais me permettre évidemment de parler d'un bouquin que j'ai écrit et qui repose justement beaucoup sur cette interrogation. Bon, je sais qu'on vous a envoyé la conclusion de mon texte. Donc, analyse et interprétation de la musique, c'est le solo de cor anglais de Tristan. Pourquoi j'ai été interpellé par cette question? C'est parce que, la question qui a été soulevée, c'est parce que lorsque je l'ai fait lire, lorsque je l'ai fait lire à des amis, Jonathan Goldman, pour ne pas le nommer, je regarde une collègue de l'Université de Montréal qui est ici. Le premier tiers de mon bouquin, c'est uniquement des analyses immanentes, c'est-à-dire des comparaisons sur un même objet des différents paradigmes analytiques, alors qu'il s'agisse de la méthode de Meyer, qu'il s'agisse de. Il y a une allusion à Schenker que d'ailleurs j'ai reprise pour l'édition anglaise parce que Nicolas m'a fait l'amitié de m'envoyer ce qui serait selon lui l'analyse schenkerienne du solo de cor anglais. Donc au-delà de mes invectives de tout à l'heure, il y a une très grande complicité entre lui et moi, mais également les analyses proprement paradigmatiques inspirées de Ruger. Il y a un tiers de la comparaison de ces analyses sur un même objet. Le résultat de cela, c'est que c'est illisible. Mon livre est illisible. Et il n'est pas là, mais quelqu'un qui a fait un excellent compte-rendu de mon bouquin, qui est un grand prof d'analyse ici à Paris, c'est Claude Abromont, qui est professeur au Conservatoire de Paris, qui a fait, je vous renvoie à son texte que vous trouverez par Internet, il a dit, ah, qu'est-ce qu'on est soulagé quand on arrive à la fin de ton bouquin, parce que là on retombe dans le vécu. Hein. On retombe dans le vécu avec les relations entre le solo de cor anglais, Schopenhauer, les idéologies de l'époque, etc. Et c'est vrai que du point de vue de la pratique musicologique habituelle, généralement dans les classes, on va commencer par expliquer le contexte de l'œuvre, au point de vue historique ou au point de vue social, et puis éventuellement, d'ailleurs, regarder les détails de son organisation structurelle. J'ai fait rigoureusement l'inverse. Alors le résultat, c'est que j'ai vendu 200 exemplaires de mon bouquin, parce que quelqu'un qui le feuillette, il va le reposer en disant c'est pas pour moi. Mais ça ne veut pas dire que du point de vue épistémologique et méthodologique, j'ai eu nécessairement tort. Alors je vais essayer de justifier, parce que la question est au cœur de votre interrogation, pourquoi j'ai procédé ainsi. Alors la première remarque, et là je repars d'un terme que tu as utilisé tout à l'heure, que j'ai trouvé tout à fait pertinent, c'est de parler de fondement ontologique de nos approches. Hein? Je préférerais parler de fondement ontologique que idéologique d'ailleurs, hein? Même si ce que je vais dire peut être considéré comme étant de l'idéologie. Mais fondement ontologique, je crois qu'en fait le discours sur la musique depuis deux siècles maintenant, repose sur l'idée que ou bien on a une conception qu'on appellerait formelle ou formaliste de la musique, on rejoint l'immanence. Hans Lick, la musique, c'est la forme en mouvement. Une orientation formaliste qui va se perdurer, on va passer par Stravinsky, la musique ne peut en elle-même et par elle-même exprimer quoi que ce soit, ou la formule de Boulez dans les années 50, la musique est un art à trait d'union sémantique. Bon, ça c'est une conception, je dirais ontologique, parce qu'elle désigne la musique comme étant quelque chose dans son essence. Et puis l'autre conception qui est la dimension que j'appellerais affective, émotive, imageante, qui a été justement battue en brèche par la domination du formalisme après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les années 70, on a assisté à la montée en force des approches immanentes sous l'influence du structuralisme, avec la redécouverte de Schenker d'abord aux États-Unis et ensuite dans le milieu francophone grâce à Nicolas, Ruvet, Meyer. Donc c'est quelque chose qui va battre, qui va s'opposer en quelque sorte à une approche soit sémantique, émotive, etc., etc. Et puis au milieu de tout ça, il y a... je prends quelqu'un qui est quand même un grand théoricien, quand même, il n'y a pas de quand même, quelqu'un qui est un grand théoricien de l'histoire de la musique, la pratique de l'histoire de la musique, c'est Karl Dallhaus. Karl Dallhaus qui dit « Musik ist geschichtlich durch und durch ». La musique, elle est historique de part en part. C'est-à-dire, ce qui est fondamental dans la musique, c'est sa dimension historique. Si vous ne parlez pas des relations de l'œuvre avec son histoire, son insertion dans les contextes historiques, vous êtes à côté de la question. Et le lundi, dans le séminaire que j'avais été invité à faire au conservatoire, quelqu'un me dit « Mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont particulièrement opposés au vu que vous avez présenté dans les fondements d'une sémiologie de musique dans les années 70 ?» Je dis « Oui, oui, très fortement. Il y a eu en Allemagne un livre entier contre Nicolas Ruvet et contre moi. Entier. Mais précisément fait du point de vue d'une perspective dallhaussienne, d'un point de vue d'une perspective, c'est l'histoire qui domine. Alors, même problème en ethnomusicologie. En ethnomusicologie, lorsque vous avez la naissance de la discipline avec l'école de Berlin au début du XXe siècle, ces gens-là sont pétris, von Hornbostel et autres, sont pétris de connaissances acoustiques. Et ce qui va les intéresser, c'est de montrer comment, du point de vue de l'organisation immanente de la musique, on rejoint tout de même la même idée, vont essayer de décrire les grandes différences entre, les musiques fondées sur les gammes tonales et puis les autres sur les échelles. Et puis, l'ethnomusicologie n'est pas restée là, parce qu'elle aussi, à un moment donné, elle va basculer dans la prise en charge des contextes. Et là, c'est facile à dater du point de vue historique. 1964, Merriam, The Anthropology of Music. Et 1973, Blacking, How Musical is Man. Dans les deux cas, ce qui est fondamental pour comprendre les musiques de tradition orale en dehors des musiques occidentales, ce sont les contextes culturels, sociaux, religieux. À tel point que dans l'ouvrage de Blacking, pratiquement la considération des structures musicales des gens qu'il a étudiées, elle passe à la trappe, enfin, elle est exclue. Je comprends qu'ils aient voulu le faire d'un point de vue polémique et d'un point de vue pour affirmer que oui, vous avez regardé ces musiques-là en oubliant les contextes culturels. Alors forcément, c'est le balancier, on va mettre l'accent sur ces contextes externes. Aujourd'hui, je dirais que c'est très fluctuant. Si on regarde, il y a un certain essoufflement de l'analyse, disparition de la revue Analyse musicale, mais il y a des gens comme toi, Nicolas, il y aura bientôt le précis d'analyse musicale de Claude Abromont qui est terminé et qui paraîtra aux presses de l'Université de Dijon d'ici 6 mois, et où il fait une synthèse admirable, parce que je l'ai lu, de toutes les méthodes analytiques disponibles avec des définitions, des remises en situation. Donc peut-être ça va redéclencher un intérêt pour l'analyse musicale. Mais bon, et puis, comme toujours, quand il y a des facteurs extérieurs contextuels, des facteurs extérieurs qui interviennent dans le déroulement et le développement de la musicologie, ils peuvent arriver à prendre le dessus sur un autre courant. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, ce qui était très très fort, tu me corrigeras tout à l'heure si je me trompe, ce qui était très très fort dans la musicologie nord-américaine, c'était Schenker et la set theory, d'ailleurs incarnée par un même musicologue qui était Alan Forte. Et on ne pouvait pas aller dans un département de musique aux États-Unis sans qu'il y ait une place énorme accordée et à Schenker, etc. Si vous allez dans des départements de musique aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ce que l'on appelle les études de genre, les gender studies. Pourquoi ? Parce que dans le mouvement du développement des sciences humaines, mais aussi l'environnement politique, ce qui a pris le dessus, et je n'ai rien contre personnellement, ce qui a pris le dessus, c'est le féminisme. Donc tous les musicologues américains et les étudiants se sont branchés sur « Ah ben non, 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 l'étude immanente, il faut laisser ça de côté. Ce qui compte, c'est de voir comment les femmes sont présentées, non seulement dans les musiques vocales, mais dans les autres. Comment est-ce qu'on va prendre compte de l'orientation sexuelle de tel et tel compositeur ?» Quand j'ai assisté à la première communication historique de l'American Musicological Society par quelqu'un qui a dit qu'il avait fait une communication qui est historique, carrément, au point de vue de ce qui s'est passé dans le temps, c'est « Was Handel a gay and why it does matter ?» Voilà. Et précisément parce qu'il voulait protester contre le fait que l'orientation sexuelle de Handel ait été complètement évacuée. Ce à partir de quoi, du reste, après, on peut se poser la question de manière sereine, je dirais, de voir s'il y a des aspects des œuvres. Alors, évidemment, ça vaut beaucoup pour les œuvres vocales, mais les œuvres vocales font bien partie de la musique. Hein. Je veux dire, absolument impossible d'aborder les opéras de Benjamin Britten si on laisse de côté le fait qu'il était homosexuel. Ça, c'est totalement impossible. Après, d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir s'il y a des éléments de la musique qui sont spécifiques pour traduire musicalement ces choses-là. Mais il faut le savoir et il faut en rendre compte. Et puis, il y a le développement des musiques pop. Qui favorise une musique qui est soucieuse de décrire les contextes sociaux et d'analyser leur sémantique. Alors, sémantique dans le deuxième sens où je l'ai utilisé dans mon intervention tout à l'heure, puisque l'objectif des grands livres de Philip Tagg, c'est d'analyser les musiques les musiques pop pour montrer, alors pour le coup, qu'il y a des unités musicales, des motifs qui sont chargés, qui sont porteurs de dimensions sémantiques qu'on ne peut absolument pas évacuer pour comprendre le fonctionnement et les motivations de ces musiques. Donc, conception ontologique de la musique qui est souvent radicale et réductrice et qui se double en plus d'une expansion des sociétés savantes qui correspondent à chacune de ces orientations. On va avoir le congrès des quatre sociétés musicologiques françaises après-demain, et une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité venir, c'était de voir dans quelle mesure il allait y avoir des passerelles et des interrogations entre les différentes disciplines. Je ne sais pas a priori, je veux voir ce que vont raconter les différentes communications. Est-ce qu'on va en rester à une approche de la musicologie qui sera propre à ce qui a été défendu dans chacune des sociétés, ou est-ce que, au contraire, dans une perspective que personnellement je souhaiterais et qui est celle de la musicologie générale, on va passer on va être capable, dans certains des sujets traités, d'établir des passerelles. Alors, ça, c'est mon premier point général. Le deuxième point, et vous ne serez pas étonné, et je m'excuse d'y revenir encore une fois, que je situe, donc, à mon avis, il est nécessaire d'établir le lien entre ces deux dimensions. Pourquoi ? Parce que, comme je disais dans ma réponse à Jean-Pierre tout à l'heure, oui, il y a une dimension purement musicale de l'organisation des structures des œuvres dont il faut rendre compte, mais il y a aussi des contextes, et alors on peut se mettre à distinguer les différents contextes pour voir comment on va les mettre en relation précisément avec les organisations musicales. C'est là qu'est tout l'enjeu. Et pour établir ces relations, je crois qu'il est nécessaire, ça c'est ce que je répète depuis 50 ans, si j'ose dire, ou un peu moins quand même, Il est nécessaire d'en passer par la tripartition qui a été citée tout à l'heure, et je voudrais rappeler pourquoi. Il y a le niveau immanent incontournable, celui qui a été proposé d'être décrit sous le nom très dangereux, que je n'utilise plus, d'analyse du niveau neutre, et je suis très heureux de voir qu'on utilise maintenant couramment le terme d'analyse immanente, comme tu l'as fait dans ta présentation. Mais par ailleurs, donc, on parle là de structure. Mais de chaque côté, à gauche et à droite, il y a ce que mon ami François Delalande, ici présent, appelle les conduites, terme aussi que j'ai kidnappé, je trouve particulièrement bienvenu, c'est-à-dire les conduites à l'œuvre dans les stratégies de création, de composition des œuvres, ce qui est de l'ordre du poétique, et les stratégies perceptives du côté de l'esthésique. Pour ces deux-là, il ne s'agit plus de structure, il s'agit de processus. Et ça, c'était extrêmement important parce que, justement, toute la question qui nous occupe aujourd'hui, à mon avis, c'est de savoir comment mettre en relation des structures avec des processus. Ce qui rejoint le problème que tu as soulevé dans ta présentation, à savoir celui du dynamisme. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos analyses ? Alors, pourquoi est-ce que je crois la tripartition nécessaire ? Je vais utiliser une formule qui va vous sembler être une tautologie, mais je la trouve très bien. C'est celle de mon ami Laure Schnapper, qui est professeur à l'École des hautes études ici à Paris, et qui dit, bien sûr qu'on ne peut pas se passer de la tripartition, parce qu'elle est, dit-elle, dans la nature des choses. Oui, elle est dans la nature des choses. Pourquoi ? Parce que lorsque je m'adresse à vous, il y a tout un processus poétique derrière mes phrases. Ce que je prononce, on peut d'ailleurs l'enregistrer et ça peut être fixé pour être éventuellement ensuite analysé, contesté et tout ce qu'on voudra. C'est le niveau immanent de ma parole. Et puis, il y a les processus de compréhension et de perception de ce que je dis. Et ça, c'est vrai pour le langage, pour le cinéma, pour les mythes, c'est même des actions. Moi, je m'amuse pas parce que je trouve la situation actuelle déplorable, mais je m'amuse beaucoup en écoutant les propos des gilets jaunes qui sont captés dans les reportages, etc., de voir d'où vient le discours de chacun, des extraits que l'on a, et de voir comment ils peuvent être interprétés. Et c'est pour ça qu'on fait, on fait face en ce moment-ci à un bordel, alors idéologique peut-être pour le coup, on fait face à un bordel sémantique invraisemblable à cause des origines et des mélanges de la parole politique de quelles que soient les personnes, d'où ça vient. Alors, pourquoi nécessité d'une approche tripartite qui va me ramener à la question du rapport immanent contexte, il ne faut jamais oublier que telle ou telle conduite perceptive risque de passer à côté des conduites créatrices sans lesquelles l'organisation proprement musicale de l'œuvre ne serait pas ce qu'elle est. Il est impossible de privilégier les stratégies perceptives au détriment des stratégies créatrices. Mais en même temps, les conduites créatrices ne prédisent jamais totalement les conduites perceptives. Il est impossible de privilégier les stratégies créatrices au détriment des stratégies perceptives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a besoin des processus poétiques et on a besoin des processus esthésiques parce qu'ils ne portent pas sur la même chose. Il y a une discrépance entre le poétique et l'esthésique. Mais cette discrépance, si on fait l'analyse de l'œuvre, il faut être capable de la rattacher aux structures immanentes qui sont le produit du poétique et qui sont le point de départ de l'esthésique. C'est pour ça qu'on a besoin de la tripartition pour répondre à la question que tu as posée. Les stratégies créatrices et perceptives ont toujours un lien en quelque part avec tel ou tel aspect des structures immanentes. Alors, que faire, comme disait Lénine ? Je crois qu'il faut essayer de répartir les différents contextes de création et de perception entre le poétique et l'esthésique. Ils conditionnent la création et la réception musicale, mais pas nécessairement de la même façon. Et c'est ça la discrépance. Alors, il y a une distinction qui avait été proposée, que j'avais proposée, pour développer le modèle de tripartite de Molineaux dans musicologie générale et sémiologie, qui a été cité tout à l'heure. C'est la différence que j'ai faite, et ça va me permettre de réintroduire le contextuel, La différence que j'ai faite entre la poïétique inductive, la poïétique externe, l'esthésique inductive et l'esthésique externe. Il faut bien comprendre, je vais détailler un instant de quoi il s'agit, il faut bien comprendre que ces termes décrivent des méthodes, les méthodes par lesquelles on va essayer de voir ce qu'il y a dans le poétique et l'esthésique et dans les contextes. Bon, alors, la poétique inductive et l'esthésique inductive, c'est le fait qu'on regarde une partition, et puis, ou une transcription, enfin je ne rentre pas dans le débat de tout à l'heure, on peut arriver à s'entendre. On a effectivement besoin, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus Nicolas, on a absolument besoin d'une trace et d'une représentation pour pouvoir analyser. Ça, c'est, Simha Arom n'aurait pas fait le travail extraordinaire qu'il a fait sur la musique africaine au point de découvrir des choses que personne n'avait jamais vues avant lui s'il n'avait pas trouvé une technique d'enregistrement qui lui permettait de séparer les parties des polyphonies, pouvoir en faire l'analyse paradigmatique et remonter au modèle qui est dans la tête des Africains lorsqu'ils font les musiques de trompe qu'il a enregistrées. Pour ça, on s'entend là-dessus, ça fait même pas de débat à mon avis. Mais, je peux donc, quand je regarde une partition, je peux essayer d'induire de cette partition, je peux essayer d'induire ce qui... de m'expliquer ou de faire des hypothèses sur comment le compositeur a été amené à écrire les structures qu'il écrit. Et puis je peux aussi interroger la partition pour dire comment est-ce que ça va être perçu dans les deux cas. Et là, on va retrouver d'une certaine façon la notion de contexte. Dans les deux cas, et peut-être c'est ce que vous auriez appelé tout à l'heure l'idéologie, je préfère parler dans ce cas-ci, ici, je dirais que pour interpréter les structures que l'analyse immanente permet de mettre en évidence, il faut une théorie du poétique et il faut une théorie de l'esthésique. C'est-à-dire, il faut se dire, ah ben voilà, exemple de théorie esthésique, la chose admirable de Leonard Meyer, ça tient en une page, mais si on l'avait écouté, ça aurait permis de gagner bien du temps, lorsqu'il dit, lorsque j'ai des unités congruentes dans une œuvre musicale, pour savoir si ces unités musicales qui sont analogues au niveau immanent, ou même identiques, pour savoir si cette identité est perçue, il faut que je tienne compte de plusieurs choses. Il faut que je tienne compte du fait de la force de ces unités. Il faut que je vois quelle est la distance entre ces unités. Par exemple, il donne un exemple qui est admirable. Il donne un exemple dans une symphonie de Bruckner où il montre qu'il y a une montée mélodique qui reste suspendue et qui se résout, 150 mesures après. C'est beaucoup trop loin pour ce qu'au point de vue perceptif, on fasse le lien entre ce que Bruckner avait fait au début du mouvement et ce qu'il fait à la fin. Donc, immanence, oui. Poétique, oui. Bruckner a bien conçu cette implication du développement mélodique, mais au niveau perceptif, non. Ça n'intervient pas. Donc, je peux faire des observations de caractère poétique-esthésique à partir de l'immanent, et j'ai donc besoin d'un contexte d'interprétation des structures que le niveau immanent a décrit. Poétique externe et esthésique externe, eh bien là, c'est l'idée que je dois aller chercher dans le stock quelquefois énorme de documents, alors les documents sur la poétique, les documents externes sur la poétique. J'ai les esquisses, qui à tel point que ça a développé, comme vous le savez, un champ entier de la recherche musicologique, ce que les Américains ont appelé les sketch studies. Je peux, à partir des comparaisons des différentes esquisses, faire des hypothèses sur le cheminement créateur des compositeurs. Ça aussi, c'est du contexte, je crois. Mais ça peut être également au niveau de l'esthésique externe. Ben ça, c'est ce que mon ami Imberti a pratiqué une certaine partie de sa vie avant d'aller vers d'autres terres que je ne commenterai pas aujourd'hui. À savoir, ça c'est notre grand copinage, oui. Il fallait bien que j'en place une fois, hein, bien sûr. Alors, c'est le fait que on va aller monter des expériences pour savoir, ou le travail qu'a fait François Delalande aussi, de savoir quelles sont les conduites qui sont à l'œuvre pour expliquer la perception d'une œuvre, et de reprendre en charge, comme tu l'as très bien fait dans ton analyse de la terrasse des audiences du Clairgueulune, il y a 30 ans, au niveau au moment du congrès de Colmar, dont j'ai appris en arrivant ici que, coucou Jean-Pierre, qu'il allait faire l'objet d'une célébration, au fond, l'année prochaine. C'est les 30 ans du congrès de Colmar, tu te rends compte de ce qui nous est arrivé? Oui, c'était bien Colmar, je ne me trompe pas. Et donc, ce que tu as montré dans ton travail, et en particulier dans cet article-là, qui est peut-être le plus exemplaire, c'est de montrer que si on fait une analyse externe, contextuelle, des stratégies de perception des œuvres, on peut aller les projeter sur les structures. Il faut bien, à un moment donné, qu'on les regarde, ces fameuses structures, pour savoir quels sont ces aspects du matériau musical qui sont pris en charge par les auditeurs, et de réinterpréter ces structures en fonction des conduites. Alors, donc, vous voyez, on a deux types de variations. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui, un petit peu de quoi?
5 minutes.
Très bien. Alors, pourquoi est-ce que je considère que dans la présentation des résultats de l'analyse d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, il faut commencer par le niveau immanent? Oui, parce que le niveau immanent, ontologiquement, c'est quelque chose d'essentiel dans la musique. Si on n'avait pas des structures sonores, on n'aurait aucune raison d'analyser la musique. Je veux dire, c'est bête ce que je dis, mais ça va de soi. Mais ce qui s'ajoute à cela, donc le niveau immanent a une réalité objective, mais c'est aussi... parce que les approches immanentes, quelles qu'elles soient, alors après on peut discuter des quelles sont les bonnes méthodologies, Schenker, Ruvé, Meyer, Lerdal, Jakendorf et Tutti Quanti, mais ce qu'elles font toujours, c'est qu'elles vont du début à la fin de l'œuvre. Et c'est la grande différence, à mon avis, avec les approches contextuelles, c'est que les approches contextuelles, lorsqu'on va dire, ok, cette pièce-là, c'est de la musique de salon. Très bien. Alors après, il va falloir essayer de détailler quels sont les aspects de la musique qui font qu'on énonce cette connotation. Et donc, ce que l'on découvre d'ailleurs, et c'est ce que j'ai fait dans le premier tiers de mon bouquin, c'est que les différentes méthodes d'analyse vont donner des poids différents aux éléments de la musique. Mais ils le font quand même, toujours en balayant la pièce du début à la fin. Alors ça nous montre bien d'ailleurs que tout discours sur la musique est un discours fragmentaire. Mais ce discours de l'analyse immanente, il est moins fragmentaire que le discours contextuel. Alors, on vous a distribué la toute dernière page de mon bouquin sur le solo de cor anglais de Tristan. C'est une tentative que j'ai faite de montrer pourquoi la mise en relation des contextes avec les structures musicales, elle va regarder la partition musicale d'une manière fragmentaire. Alors, vous pouvez regarder par exemple l'avant-dernière ligne. Vous avez les traits musicaux, quinte initiale et ses transformations. Puis tout au bout de la ligne, appel schopenhauerien de la volonté. Alors, si on n'est pas dans du contextuel quand je parle de ça, il s'agit de dire que par exemple, je voulais écrire un article qui s'appellerait uniquement Wagner et Schopenhauer, je pourrais commencer par faire l'analyse de la représentation que Wagner se donne de la philosophie de Schopenhauer et de sa conception de la musique à travers son essai sur Beethoven. Dans lequel Wagner cite l'essai de Schopenhauer, essai sur les fantômes et les apparitions. Et qu'est-ce que je découvre en le lisant? Je découvre que, un, la musique, elle est, elle a pour origine le rêve, elle a pour origine le rêve, et qu'elle est la manifestation extraordinaire de ce que Schopenhauer appelle dans son système philosophique la volonté. Mais il ne dit pas que ça. Il nous dit, sans faire allusion du tout à une œuvre musicale en particulier, ce qu'il nous dit à ce moment-là, c'est que que la musique qui est le fruit de cette geste onirique, elle contient un appel, c'est l'appel de la volonté. Alors, il se fait qu'il y a d'autres textes, c'est pour ça, Nicolas, qu'on est bien obligé d'aller voir d'autres textes pour réussir à expliquer la signification immanente de la musique. Il y a d'autres textes dans lesquels on comprend que ce à quoi Wagner fait allusion quand il fait ce résumé de la théorie schopenhauerienne, c'est le solo de cor anglais de Tristan. Alors là, ça devient extraordinaire parce que, alors on regarde, bon, il vient nous parler de l'appel, c'est la seule chose qu'il vient de nous dire. Et l'appel, ben, c'est pas difficile. Pa, pa, pi, pa, pa, pa. Toute la pièce est un développement, en partie, de ces élévations de quinte. À d'autres moments, c'est la carte, ces mouvements, ces grands mouvements ascendants qui vont ensuite se résorber sur la tonique. Alors, on peut faire la même chose à propos des autres éléments d'analyse contextuelle. Regardez la ligne du dessus, rythme de barcarolle, puis au bout de la ligne, comparaison entre Tristan et Orphée. Oui, parce que ce qu'on peut tirer de cette analyse philosophique et conceptuelle, c'est l'idée que Tristan est le compositeur de Tristan. Pourquoi ? Parce que quand il est au troisième acte de Tristan, il entend, il se réveille, et qu'est-ce que c'est qu'il a entendu dans son rêve ? C'est le solo de cor anglais de Tristan. Ça, c'est très très clair. Donc, et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que Tristan vient de débarquer à Caréole dans sa barque, n'est-ce pas, en attendant que Isolde arrive. Donc, il y a une analogie avec Tristan et Orphée. Et ça se traduit comment dans la musique? Eh bien, c'est qu'il y a des rythmes de barcarolle, hein, constamment à travers tout le solo. Donc, voilà l'éclairage par un aspect contextuel qu'on peut dégager dans la musique elle-même. La mélancolie, hein, ce que j'ai mis dans la quatrième colonne. Vous allez avoir ce repos extraordinaire sur le sol bémol napolitain prolongé, en attendant qu'à la toute fin des 42 mesures du solo, il redescende vers le fa. Donc je peux établir un lien à la invertie entre la connotation sémantique de la mélancolie et le trait musical prolongement du sol bémol qui est répété, qui devient un axe paradigmatique énorme jusqu'à ce que l'on arrive au fa, etc. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cet exemple? C'est que simplement, si j'avais privilégié quelques-uns de ces contextes, Schopenhauer, le concept wagnérien de mélodie infinie, parce que Tristan décrit le solo qu'il entend dans sa tête comme étant la mélodie qui ne meurt jamais. C'est difficile de ne pas faire le lien avec le concept de mélodie infinie chez Wagner. Si j'avais privilégié chacun de ces aspects-là pour dire, voilà, c'est ça qui va expliquer le solo, ben, il y a tout le reste de la musique au niveau immanent qui aurait été laissé de côté. Et c'est pour ça que j'ai pris le risque, tant pis pour moi, présenter toutes les analyses immanentes au début, dans le premier tiers du livre, pour montrer que lorsque j'en arrive à l'analyse des liens de la musique de Wagner avec ses références philosophiques, je l'ai même fait avec des peintures, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'aspects qui peuvent être illustrés. Pourquoi est-ce que je procède de cette façon? C'est pour montrer que ces éléments de signification dont je peux faire l'exégèse interprétative et herméneutique, je fous le paquet sur ces termes-là, je peux les mettre en rapport avec les éléments de structure que j'ai inventoriés sans me poser de questions, au moins vis-à-vis du lecteur, que j'ai inventoriés pendant les 150 premières pages de mon livre. Donc je réussis, je crois, à ce moment-là, si on veut bien lire le bouquin attentivement, mais je comprends qu'il y ait des choses plus drôles à faire dans la vie, on peut très très bien couvrir la totalité du déroulement de la musique selon chacun des paramètres choisis pour en rendre compte. Ça peut être le prolongement mélodique, ça peut être les nuances, ça peut être les rythmes, ça peut être la métrique, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis, les éléments contextuels externes que les enquêtes de caractère philosophique, exégétique, historique, psychologique ont permis de mettre en évidence. Alors, je pense, pour terminer, ma phrase de conclusion, c'est en comprenant le fonctionnement de la tripartition et le caractère constructeur du discours sur la musique, qu'il soit au niveau immanent ou qu'il soit au niveau exégétique, qu'on peut réussir à relier ces structures immanentes et ces contextes. Voilà.